Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du Canal M qui vous propose son kiosque magazine du lundi 16 février. Le kiosque magazine du lundi est consacré à la culture et à la société. Et nous sommes là pour vous intéresser, nous l'espérons, à des sujets que nous avons choisis minutieusement pour vous. Nous, c'est Franceline Nuviard.
Bonjour, oui, bonjour. Bonjour Roger, bonjour à chacun.
Bonjour, bonjour aussi à Jean-Sébastien de la Liberté qui est en régie.
Bonjour Jean-Sébastien.
Oui. Alors, il est là, tout le monde est présent malgré ce froid un peu sibérien. Au menu, qu'avons-nous ce matin?
Alors moi, mon premier sujet sera 48 heures après la Saint-Valentin, un article sur le parcours du combattant que peut être la vie de couple. C'est un article d'Olivia Lévy dans le cahier Pause de la presse du 1er février 2015. Ensuite, il y aura deux petits articles de Mélanie Loisel de l'Itinéraire sur le réchauffement de la planète et le deuxième, le devoir de mémoire à propos des camps de concentration. Et enfin, je terminerai par un article sur nos droits à propos des prélèvements bancaires préautorisés. C'est dans la revue Le Bel Âge de février 2015.
Pour ma part, je vous amènerai un peu partout sur la planète, surtout en Asie et en Afrique, avec infirmières de guerre. Ensuite, un petit guide de la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce qui est admissible en société?
Absolument.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Est-ce qu'on nous sommes contrôlés? Mais pour tout de suite, nous sommes tous des Coréens. Saviez-vous ça?
Non, absolument pas.
Non. Nous serons tous des Coréens. Nous serons, parce que c'est une...
Dans l'avenir.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on prévoit, en toute façon. C'est l'actualité qui nous propose le compte-rendu d'une entrevue avec Mme Uni Hong. Elle est journaliste, née aux États-Unis de parents sud-coréens dans les années 70. Elle est née dans les années 70. Elle a vécu à Séoul pendant son adolescence. Elle a fait des études aux États-Unis et a exercé son métier de journaliste en France. Uni Hong, H-O-N-G. Et le texte est écrit par Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. La Corée a trouvé une recette irrésistible pour conquérir la planète avec sa culture et ainsi assurer sa croissance économique, un projet fou né dans les officines gouvernementales à Séoul. Le chanteur Psy, ou je pense qu'on disait prononcer Psy, n'est que la pointe de l'iceberg, la crête de la vague plutôt. Le rondouilleur artiste sud-coréen qui tourne en dérision les parvenus du plus huppé des quartiers de Séoul dans Gangnam Style, vidéo YouTube la plus populaire de tous les temps, n'est en effet qu'un des nombreux produits culturels coréens portés par la Hallyu, H-A-2-L-Y-U, la vague coréenne qui inonde le monde depuis quelques années déjà. Surfant sur la vague, il y a les stars de la K-pop, la musique pop coréenne, qui soulèvent les foules de Mexico, de Paris et Hong Kong avec leurs mouvements de danse synchronisés au millième de tour. De leur côté, les acteurs de K-drama, les séries dramatiques coréennes, rivent à leur petit écran 4 téléspectateurs iraniens sur 5 le jeudi soir et sont accueillis par des admirateurs en délire à l'aéroport de La Havane. Et vous? Est-ce que la vague ne vous a pas emporté?
Pas encore.
Pas encore, mais c'est normal. Elle n'a pas encore submergé la terra incognita nord-américaine, soutient Uni Hong. Voici des questions qu'on lui a posées. Qu'est-ce qui a lancé la vague coréenne? La planète n'a pas découvert la K-pop et le K-drama par hasard. Après la crise financière asiatique de 1997-98, l'État coréen a décidé de devenir le plus grand exportateur de culture populaire au monde. Les Sud-Coréens s'étaient rendus compte qu'ils étaient trop dépendants des revenus des chaebol, ces vastes conglomérats industriels qui dominent l'économie nationale. Par exemple, Samsung représente encore au moins 20 % du PIB sud-coréen. C'est énorme. Si un chaebol s'effondre, c'est tout le pays qui l'entraîne avec lui. L'État a voulu développer d'autres moteurs de croissance économique. Exporter la culture populaire est donc devenue une priorité nationale méticuleusement mise en œuvre grâce à des plans quinquennaux. Selon le plan en vigueur, le but est de doubler les revenus tirés de ces exportations pour les faire passer à 10 milliards de dollars. Et pour y arriver, le gouvernement verse quelque 500 millions par année à son bureau du contenu culturel qui coordonne les efforts nationaux et mise sur un fonds public-privé d'un milliard pour subventionner la culture populaire susceptible de produire de généreux bénéfices. Comment l'État s'y est-il pris? Internet a été la clé de la vague coréenne. En Corée du Sud, comme à l'étranger, le président Kim Dae-jung, qui a été président de 1998 à 2003, dans un projet un peu fou, il a d'abord décidé qu'il fallait que le pays soit le plus connecté au monde, et c'est ce qu'il a parvenu à faire. Or, ce n'était pas pour recevoir de l'information de l'extérieur, mais bien pour en exporter. La vague coréenne n'a atteint le monde extérieur que lorsque la bande passante est devenue assez rapide pour qu'on puisse faire de la diffusion en continu, ce qu'on appelle le streaming. La plupart des étrangers qui découvrent la K-pop ne l'écoutent que rarement en MP3 ou en disque. Ce sont les vidéos qu'ils regardent. Psy et son succès Gangnam Style sont un bon exemple. C'est la vidéo qui est devenue virale, pas la chanson. La flopée de gazouillis qui ont propulsé Psy ont été lancés par un professeur d'anglais de Singapour, complètement inconnu, puis retweetés par ses étudiants, pour être enfin retweetés par le rappeur américain T-Pain, d'abord populaire en Asie. La chanson a ensuite été étendue aux quatre coins du monde par Internet. Question assez longue. Être au sommet, ce n'est pas hors du commun pour la Corée du Sud. Le pays collectionne les titres numéro un mondial de l'éducation, tant dans la performance scolaire que dans les heures d'études, de la rapidité d'Internet, du nombre d'heures travaillées, et maintenant, cette conquête culturelle du monde, d'où vient cette obsession de la première place? Réponse de Uni Hong, d'un sentiment, ça s'appelle le Han, H-A-N, qui est extrêmement difficile à traduire. C'est une sorte de colère ou de désir de vengeance proprement coréen. Cela vient notamment du fait que le pays a été envahi à de multiples reprises. Comme le dit Park Chan-wook, réalisateur du film Old Boy, Grand Prix du jury à Cannes en 2004, c'est un désir de vengeance qui ne peut jamais être assouvi. Dans les films américains, le héros finit toujours par vaincre la personne qui a allumé son désir de vengeance, et le calme revient. Dans les films coréens, où ce désir est omniprésent, ce n'est jamais le cas. Le héros reste pris avec sa colère. La motivation de la Corée, c'est de prendre sa revanche, et surtout de surpasser son éternel rival japonais, qui a imposé son joug pendant la première moitié du 20e siècle. Lorsque le fabricant Samsung s'est développé, il a fait de Sony son principal adversaire et non de Microsoft ou Apple. Il fallait vaincre les anciens vainqueurs. Il y a une motivation économique derrière la vague coréenne, mais y a-t-il aussi un objectif diplomatique et stratégique? Réponse, l'accord de défense avec Washington qui remonte à la fin de la guerre de Corée en 1953 concède le contrôle des opérations des forces armées sud-coréennes aux Américains en cas de guerre. Alors, pour la Corée du Sud, la seule façon de projeter sa puissance, c'est par le soft power, la culture. Et pour ce pays qui a été envahi des dizaines de fois dans sa longue histoire, mais qui n'a jamais été ni conquérant ni impérialiste, c'est la première fois qu'il part à la conquête du monde. Alors, c'est un pays de 50 millions d'habitants qui a de grandes ambitions. Nous serons tous coréens. Du moins, c'est le titre de l'article qu'on peut lire dans l'actualité sous la signature de Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자
Et maintenant, Fatigué d'aimer. C'est un article écrit par Olivia Lévy à partir d'une entrevue qu'elle a faite avec François Saint-Père, qui est psychologue et spécialiste de la vie du couple. Depuis 20 ans, d'innombrables couples sont allés le consulter dans sa clinique à Saint-Lambert. Ce qu'il redoute le plus, le burn-out amoureux, qui est aussi le titre de son livre qui vient de paraître. Que faire pour ne pas en arriver là? Peut-on passer à travers cet épuisement amoureux? Est-ce une fatalité? Ce père de trois enfants estime qu'il est possible de franchir cette étape et même de donner un nouvel élan à son couple. Première question. Qu'est-ce que le burn-out amoureux? L'épuisement amoureux, c'est l'usure du couple dans le temps provoquée par un ensemble de frustrations, de déceptions et de besoins non comblés. Fruit du cumul de multiples insatisfactions et déceptions répétées au fil du temps, l'épuisement amoureux est un état physique, mental et émotionnel très éprouvant. Le cœur de l'épuisement amoureux, c'est lorsqu'on est malheureux et qu'on se dit qu'on ne peut plus continuer comme ça. L'abattement est intense, mais on n'est pas prêt à assumer la séparation. C'est un état d'ambivalence assez douloureux qui dure souvent quelques mois. À partir de quand un couple est-il en burn-out amoureux? Il y a deux cohortes fortes de séparation, autour de 5 ans et de 16 ans de vie commune. 5 ans, c'est ce qui correspond à la naissance du premier enfant, à l'affaissement de l'emballement amoureux, à l'arrivée de la négociation pour le partage des tâches et des responsabilités. Puis, au bout de 16 ans d'union, quand les enfants sont adolescents, qu'on n'a plus le temps pour se rendre compte à quel point on s'est éloigné de notre conjoint et qu'on s'interroge sur la suite des choses. Les femmes sont souvent plus nombreuses à vivre cet épuisement. Pourquoi ? Les femmes ont davantage d'attentes dans les relations amoureuses et donc plus de déceptions. Peut-être que les hommes sont tout aussi épuisés, mais ils expriment moins leurs émotions. Alors, il leur est plus difficile d'avouer leur détresse et leur inconfort. À partir de la naissance du premier enfant, une grande proportion de femmes se disent insatisfaites de leur relation, principalement parce qu'elles sont prises avec une double tâche, leur travail et 70% des obligations domestiques, même si elles travaillent autant que leur conjoint. Elles en veulent à leur amoureux de ne pas être à la hauteur de leurs souhaits et de ne pas les aider davantage. Elles sont fatiguées, moins patientes et moins affectueuses. Les hommes vont se sentir négligés, tellement qu'on va les entendre dire que leur enfant leur a volé leur conjointe. L'arrivée des enfants provoque donc un séisme dans le couple. Oui, on est dans une société où l'on investit beaucoup dans nos enfants, car ils sont plus rares qu'autrefois. On s'implique beaucoup aussi dans notre travail. Il reste donc peu de temps pour soi, et bien souvent, le perdant, c'est le couple, qui est mis sur la tablette pendant des années. Tout ce qu'on néglige dans la vie comporte souvent des conséquences. Les gens s'éloignent, ont moins de plaisir ensemble, sont irritables, intolérants, le sentiment amoureux s'affaiblit. Et finalement, ils se demandent s'ils veulent rester ensemble, car ils vivent désormais comme des étrangers. Alors, comment éviter cet épuisement amoureux? Je sais que tous les couples sont souvent à la course, mais si on arrive à partager les tâches et la responsabilité des enfants de manière relativement équitable, de façon à réduire la frustration chez les femmes, c'est déjà beaucoup. Ne pas se négliger dans la vie de tous les jours, rester attentif à l'autre, le complimenter au lieu de le critiquer. Se réserver du temps pour le couple, élaborer des projets. Je vois des couples qui, à partir du moment où ils ont des enfants, ne sortent presque plus en tête-à-tête. L'état d'emballement du début de la relation nous mobilise sans effort, notre amoureux est notre priorité. Mais avec le temps et les enfants, il faut accorder plus d'attention à son conjoint et ça peut demander un certain effort. Le degré d'attachement à l'autre est-il très important? Oui, il est fondamental de se sentir apprécié par l'autre. Un des meilleurs facteurs de la longévité du bien-être dans une relation, c'est l'impression d'être apprécié. Et ça demande un certain effort d'attention au quotidien. Ne pas centrer son attention sur les sujets d'irritation, ce qui est plus difficile avec le temps, avec les frustrations et les déceptions qui s'accumulent. Pourquoi tant de couples se séparent-ils? Il y a plusieurs facteurs. La société a énormément évolué depuis 60 ans. Avant, on se mariait pour fonder une famille. Maintenant, on entre en relation pour bénéficier son bien-être personnel, pour être plus heureux. Résultat, on augmente nos attentes et de ce fait nos frustrations. Les rôles hommes-femmes autrefois étaient cristallisés. Chacun avait son rôle et son territoire bien déterminé. Maintenant, tout est à négocier sur qui fait quoi, ce qui crée donc plus de conflits. Aussi, on a éliminé tous les obstacles à la séparation. À l'époque, on avait des familles nombreuses, la religion faisait pression et on était stigmatisé si on divorçait. Maintenant, c'est tout le contraire. Les femmes travaillent autant que les hommes, la religion n'est plus dans nos vies, on a plus d'occasions de rencontres, la séparation n'est plus du tout mal perçue. Il y a certains auteurs et sociologues qui estiment qu'il n'y a pas d'époque plus difficile que la nôtre pour les relations de couple. Les défis sont nombreux, c'est vrai. En fait, si on avait des robots pour nous aider dans toutes les tâches ménagères, qui prépareraient le souper, feraient le lavage, le ménage, est-ce qu'il y aurait, selon vous, moins d'épuisement amoureux? Assurément, ça aurait certainement une incidence sur les relations de couple. Prenons par exemple des gens qui sont épuisés et stressés par leur travail. Leur comportement se modifie, ils ne tolèrent plus rien, et il arrive un moment où tout les irrite. C'est là que les couples sont à fleur de peau. Les émotions sont plus fortes, les conflits plus fréquents. J'entends régulièrement des couples qui sont vraiment à bout de souffle. Leur vie est une immense course perpétuelle, du matin au soir et les fins de semaine, et ils n'ont jamais de répit. Quand vous regardez certaines études qui estiment que les couples les plus heureux sont ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en ont qu'un seul, vous comprenez pourquoi. À partir de 2 enfants, il semble que la satisfaction conjugale chute considérablement, ce qui a du sens, car plus on a d'enfants, plus on se détourne de soi-même, plus on a de responsabilités, de tâches, de stress, moins on a de temps pour soi et son couple. A-t-on vraiment trop d'attentes ? On s'attend aujourd'hui à ce que notre partenaire soit un amoureux, un ami, un objet stimulant avec qui on a des projets, avec qui on s'amuse, avec qui on partage les responsabilités, qui s'intéresse à nous, dévoile nos émotions. Il n'y a jamais eu d'autant d'attentes dans les relations amoureuses. Une seule personne ne peut pas répondre à tous nos besoins. Voilà, donc c'était « Fatigué d'aimer », un article de Olivia Lévy dans le cahier Pause de la presse.
C'est une opinion.
Eh oui.
On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul. On danse les uns avec les autres, on court les uns après les autres, on se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout. On est toujours tout seul au monde. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du camp, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On danse les uns avec les autres, on court les uns après les autres, on se déteste. On se détruit, on se désire, mais au bout du camp, on se rend compte qu'on est toujours tout seul.
On a reconnu Fabienne Thibault. Dans l'actualité du mois de mars, on peut lire un dossier spécial « Unis contre le terrorisme ». On y aborde des questions comme le petit guide, comme le rire à la française, peut-on rire de tout, Québec, place au dialogue, affronter les tabous, le plan Harper. Aujourd'hui, je m'intéresse à un texte qui a pour titre « Petit guide de la liberté d'expression ». Il est signé, ce texte, par Dominique Forget. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, disait l'humoriste français Pierre Desproges. Vrai que la liberté d'expression est un principe démocratique fondamental. Les Français l'ont consacré dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les États-Unis en ont fait le premier amendement de leur Constitution. Au Canada, elle est garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et au Québec par la Charte des droits et libertés de la personne. Mais les États démocratiques imposent aussi des limites. Pour protéger les particuliers ou l'ordre public, ils estiment que certains propos ne devraient pas être tenus et votent des lois en conséquence. C'est ainsi qu'ils sanctionnent à divers degrés l'injure, la diffamation, la propagande haineuse ou l'apologie du terrorisme. Trois spécialistes de la liberté d'expression, des juristes, Louis-Philippe Lampron de l'Université Laval, Richard Moon de l'Université de Windsor en Ontario et Julien Fournier, avocat et associé du cabinet Pierre à Paris, font un survol de ce qu'on ne peut pas dire en public. Est-ce qu'on peut dire « pauvre con » ? En France, insulter quelqu'un sur Facebook pourrait vous coûter 12 000 euros. La loi du 29 juillet 81 sur la liberté de la presse interdit formellement la diffusion publique d'une injure, soit le fait d'adresser à une personne une parole offensante dans le but délibéré de la blesser. Sans son immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy aurait pu être sanctionné. Lorsqu'en 2008, il a traité de « pauvre con » un homme qui refusait de lui serrer la main. Ses propos constituent de toute évidence une injure publique, estime l'avocat parisien Julien Fournier. Ce type de délit n'existe pas au Québec. Certes, la Charte des droits et libertés de la personne stipule que tous ont droit à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation, mais la Charte, en garantissant la liberté d'expression, protège aussi le droit de critiquer les positions avec lesquelles on n'est pas d'accord, même si cette critique s'exprime de façon virulente, explique Louis-Philippe Lampron. Ainsi, je peux traiter de gros con quelqu'un qui tient des propos racistes, homophobes ou sexistes, sans risquer de me faire poursuivre. Tout dépend du contexte et de l'intention qui se cache derrière l'injure. Autre expression, sale nègre. Alors là, c'est plus grave, affirme d'emblée Louis-Philippe Lampron. La Charte des droits et libertés de la personne interdit la discrimination contre toute personne, que ce soit en raison de sa couleur, de sa religion, de son orientation sexuelle, etc. Une injure discriminatoire n'a rien à voir avec la critique d'une idée ou d'une position, fait-il valoir. Alors, si on traite quelqu'un de voyou maintenant, la diffamation consiste à dire ou à écrire des choses défavorables sur une personne, souvent à lui attribuer des comportements immoraux ou contraires à la loi, alors que ces affirmations sont fausses, ou encore à les dire ou les écrire sans motif valable, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses. Toutes les démocraties sanctionnent la diffamation. Au Québec, la diffamation est interdite par le Code civil et le Code criminel. Pierre-Carl Péladeau, lorsqu'il était président de Québecor, avait poursuivi Sylvain Lafrance, alors vice-président de Radio-Canada, en diffamation, pour avoir dit de lui qu'il se comportait comme un voyou. Autre expression, les homosexuels sont des pédophiles. Au Canada, l'incitation à la haine contre un groupe autrement que dans une conversation privée est un acte criminel passible de 2 ans de prison, dit Richard Moon, professeur à Windsor. En 2013, la Cour suprême du Canada a condamné pour propagande haineuse William Watcott pour avoir distribué en Saskatchewan des dépliants affirmant que les homosexuels étaient 3 fois plus susceptibles de faire subir des sévices sexuels à des enfants. Autre expression qu'on a pu trouver, celle-là, on est allé la chercher un peu loin, c'est dans les années 1980, où le groupe Rock et Rock et Belles Oreilles avait un sketch qu'il intitulait « Super Jésus, poulet barbecue ». Ceci est mon poulet livré pour vous. Alors, théoriquement, les membres du groupe humoristique Rock et Belles Oreilles auraient pu écoper à la fin des années 80 d'une peine de prison de 2 ans pour leur sketch mettant en vedette le personnage de Super Jésus, dans lesquels on se moque allègrement des miracles et de la morale catholique. Au Canada, le Code criminel pénalise toujours le libelle blasphématoire, le fait de tenir des propos offensants contre la religion ou les sentiments des croyants. En réalité, personne n'a été poursuivi en vertu de cet article du Code criminel depuis 1936, fait valoir Louis-Philippe Lampron. Si une cause était portée devant les tribunaux, cet article du Code criminel serait probablement jugé anticonstitutionnel, estime Richard Moon. Le droit de critiquer les dogmes d'une religion est au cœur même de la liberté d'expression qui doit s'exercer dans une société démocratique. Alors, tout est en matière de contexte.
Oui, et des, absolument. Vraiment.
Et ça dépend aussi de la société dans laquelle on vit. Petit guide de la liberté d'expression, c'est dans l'actualité du mois de mars.
Alors, quelques brèves. Une nouvelle murale pour la mission. Depuis 125 ans, la mission Aulbe-Breuvray est une ressource inestimable pour nombre de personnes sans-abri. Le pavillon Patricia McKenzie, destiné aux femmes, est désormais orné d'une nouvelle murale intitulée « Éclosion », réalisée par l'artiste Annie Hamel et 6 apprentis muralistes. Pour la chef des services aux femmes, Florence Porte, l'œuvre extérieure fait office de message de bienvenue. La morale nous permet d'accueillir les femmes en beauté en leur disant « Nous sommes ici pour vous et nous allons vous accompagner afin de vous aider à retrouver une juste place dans notre communauté. »
Dans le Reader's Digest du mois de janvier, on a une rubrique qui s'appelle « De drôles d'idées qui ont marché ». Et en ce temps sibérien ici, là, que nous vivons actuellement, voici ce qui s'est passé. En Norvège, jusqu'à récemment, l'hiver à Rjukan était déprimant. En effet, la ville, nichée au creux d'une vallée, ne reçoit pas de lumière directe du soleil près de 6 mois par année. Quelques esprits éclairés, c'est le cas de le dire, ont eu l'idée de reprendre un projet proposé régulièrement depuis un siècle, installer sur le versant de l'une des montagnes des miroirs géants qui réfléchiraient les rayons du soleil sur la place principale du village. Et ça a marché. Grâce à des moteurs contrôlés par ordinateur, 3 imposants miroirs suivent le parcours de l'astre solaire. Pour la première fois de l'histoire de Rjukan, le soleil d'automne a brillé sur la place en 2013.
Offrir une pause. Des parents en crise, à bout de nerfs ou soudainement incapables de fournir les soins de base à leurs enfants, c'est une réalité taboue mais bien vivante. Avant de commettre l'irréparable, les parents en détresse temporaire peuvent compter sur la maison Kangourou. Seul organisme du genre au Canada, la maison accueille les 0 à 12 ans pour une période allant de quelques heures à 15 jours.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors maintenant, 2 articles écrits par Mélanie Loisel dans la revue L'Itinéraire de janvier 2015. Le premier s'intitule « Le Canada à Paris ». Pendant que vous entendrez cet article, environ 64 000 tonnes de gaz à effet de serre seront rejetées dans l'atmosphère. C'est ce que produirait une automobile pour faire non pas une, mais 2500 fois le tour de la Terre. À ce rythme-là, celle qu'on se plaît à appeler la planète bleue ne le sera peut-être plus pour longtemps sans un plan de lutte sérieux contre les changements climatiques. L'année 2015 sera donc importante, voire vitale, pour assurer l'avenir de l'humanité. En décembre prochain, les chefs d'État sont attendus à Paris en vue de signer un nouveau protocole qui fixera les objectifs planétaires de réduction de gaz à effet de serre, le CO2. Les discussions s'annoncent tendues, alors que les pays émergents comme l'Inde et la Chine, qui sont de grands émetteurs de CO2, souhaitent que les pays occidentaux, pour ne pas dire les États-Unis, montrent d'abord l'exemple. Malgré les tensions, il y a tout de même des signes encourageants depuis que Washington et Pékin se sont entendus sur des cibles de réduction de CO2 l'automne passé. Les pays présents à la conférence de l'ONU à Lima au Pérou sont aussi parvenus à conclure un accord pour assurer la poursuite des négociations en décembre. Certes, les experts jugent que ces ententes sont trop timides, que les objectifs ne sont pas assez élevés. Il n'en demeure pas moins qu'on sent une véritable volonté des grands pays émetteurs de CO2 de faire leur part. Ces dernières années, les preuves scientifiques se sont accumulées et démontrent clairement que les catastrophes naturelles s'accumuleront si rien n'est fait pour maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés centigrades. Avec la demande mondiale d'énergie qui risque de doubler d'ici 2050, on estime que la température de la planète pourrait augmenter à 6 degrés centigrades en moins d'un siècle. Avec un réchauffement aussi rapide, on peut s'attendre à des précipitations accrues qui causeront d'importantes inondations, des sécheresses majeures qui créeront des famines, des incendies de forêt qui détruiront des espaces vitaux et la fonte des glaces qui occasionnera la montée des eaux des océans. Au Canada, on devrait particulièrement s'en préoccuper, surtout qu'on prévoit la disparition complète de la banquise arctique à l'été 2020. Ces changements climatiques pourraient avoir des impacts majeurs sur les communautés inuites vivant dans le Grand Nord. Or, depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Harper refuse systématiquement de participer à la lutte contre les changements climatiques. Le Canada est même le seul pays à s'être retiré du protocole de Kyoto sous la pression du lobby des sables bitumineux. Ce comportement irresponsable d'Ottawa nous place maintenant dans une position fort inconfortable en vue des prochaines discussions sur le climat, où le Canada sera inévitablement relégué aux ligues mineures. En tant que pays nordique, on risque pourtant d'être parmi les premiers à ressentir les effets des changements climatiques sans qu'on ait mot à dire. Avec son entêtement pétrolier, le gouvernement Harper met ainsi, à plus ou moins long terme, toute la population canadienne en danger, en plus de lui faire porter un lourd fardeau financier. Si les États-Unis, la Chine et les autres pays émetteurs de CO2 commencent enfin à prendre au sérieux le réchauffement de la planète, c'est parce qu'ils ont compris que les dégâts causés par les changements climatiques coûteront des milliards de dollars et que toute l'économie mondiale en souffrira. L'ouragan Sandy, par exemple, a coûté 19 milliards de dollars à l'État de New York en 2012. Le gouvernement a beau ignorer volontairement les données scientifiques, il ne pourra faire l'abstraction des chiffres. Qu'il le veuille ou non, aucun pays n'échappera au remous de l'économie mondiale causé par le réchauffement planétaire. Au moins pour cette raison, il devrait s'assurer de faire réellement partie des négociations à Paris. Article de Mélanie Loisel qui s'intitule « Le devoir de mémoire ». C'était le 27 janvier 1945. Ce jour-là, l'humanité découvrait l'horreur du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Lorsque les soldats de l'armée rouge y sont arrivés, il ne restait plus qu'une poignée d'hommes et de femmes à l'allure de morts vivants. Le régime hitlérien avait déjà tué plus d'un million de personnes, des juifs surtout, mais aussi des tziganes, des homosexuels, des prisonniers de guerre. Il y a 70 ans, on révélait une sombre page de notre histoire qu'il ne faut jamais oublier. Plus jamais. Ces deux petits mots résonneront toujours dans ma tête. Je revois encore Henri Engelberg fondre en larmes après m'avoir raconté son histoire dans un café de Bruxelles en ce beau samedi après-midi du printemps. Aussi inimaginable que cela puisse paraître, cet homme de 90 ans, qui me semblait si fragile, a survécu à 10 camps de concentration et d'extermination pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne pouvais y croire, mais je devais y croire, lorsqu'il a remonté sa manche pour me montrer son numéro des camps tatoué sur son avant-bras. Le cœur m'a fait 1000 tours. Doucement, j'ai glissé mes doigts sur son matricule, puis on s'est serré et j'ai séché ses larmes. Je te promets de ne pas oublier, de ne pas t'oublier. Sa femme, Marianne, était là avec son sourire radieux. Elle respirait le bonheur. Elle et Henri étaient si beaux à voir, je me suis mise à croire en l'amour. L'amour qui guérit les pires blessures, même s'il ne peut effacer la mémoire. Mais les tourtereaux m'ont plutôt parlé de tendresse. Ils m'ont confié que pour survivre à ce qui nous semble insurmontable, il faut surtout de la tendresse. Il faut des mots, des gestes, de la délicatesse, de la douceur, de l'attention, de l'écoute, de la présence, du partage, du respect. Oui, il est possible de survivre si les hommes et les femmes choisissent de se faire du bien. Henri Engelberg, qui nous a finalement quittés à l'été, a bien survécu. Et il n'est pas le seul. Son ami, Henri Kischkla, a lui aussi résisté à la barbarie des nazis. Il est sorti vivant d'Auschwitz. Et à 88 ans, il se tient encore bien droit, fier d'avoir tenu tête pour pouvoir encore aujourd'hui témoigner des humiliations et des souffrances dont sa famille et lui ont été victimes. Comment a-t-il fait? Pour quelles raisons? À ces questions, les survivants de l'Holocauste répondent souvent qu'ils l'ont fait pour garder vivante la mémoire de leur mère, de leur père, de leurs frères et sœurs qui, eux, n'ont pas eu cette chance. Au crépuscule de leur vie, ces survivants ont peur d'être oubliés, pour que leur histoire soit oubliée et que l'humanité ne sombre à nouveau. Il y a quelques mois, j'ai donc fait la promesse aux deux Henri de garder leur mémoire vivante. J'ai fait la même promesse à mon ami Martin Gray, qui a vécu au ghetto de Varsovie, au camp de Treblinka, et après la guerre, à la perte de sa femme et de ses quatre enfants dans un incendie de forêt. Dans les années 70, son histoire, racontée dans le célèbre livre « Au nom de tous les miens », avait d'ailleurs fait grand bruit, autant au Québec qu'en Europe. L'hiver dernier, il m'a aussi accordé sa dernière grande entrevue dans « Ma vie en partage », que nous avons publiée aux éditions de l'Aube. Pendant plusieurs mois, j'ai donc eu l'immense privilège de poser toutes les questions qui me traversaient l'esprit parce que je voulais comprendre. Je voulais savoir d'où venait cette volonté de vivre de ces hommes et de ces femmes qui ont connu la faim, le froid, la peur, la peine, l'injustice, la souffrance, tout ce qu'on appelle le mal. J'ai compris bien des choses, mais j'ai surtout compris qu'il fallait se tenir debout devant l'imbécilité humaine pour assurer notre dignité. Mais j'ai surtout compris que la vie était sacrée et qu'aucun être humain n'avait plus de valeur que soi-même. Voilà, c'était le devoir de mémoire, un texte de Mélanie Loisel dans la revue L'Itinéraire du 15 janvier 2015.
Encore qu'il soit impossible de surpasser l'horreur de la Shoah dont vient de nous parler Franceline, un autre texte dans la même veine. Il se produit encore des atrocités dans le monde.
Eh oui. Alors que plus jamais. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, Elisabeth Carrier est infirmière. Elle a écrit un livre auquel elle a donné le titre « En mission » et le Reader's Digest, dans son édition de janvier, publie des extraits de ce livre sous le titre « Infirmière de guerre ». En 30 missions humanitaires pour la Croix-Rouge auprès des victimes de conflits, Elisabeth Carrier a vu la misère et la désolation sous leurs pires visages. Voici un court aperçu de ce qu'on peut lire dans ce texte qui compte plus de 15 pages. D'abord une citation. « Depuis ce matin, la nausée me tord l'estomac. Des cadavres gisent dans la rue. Il y a du sang partout. Je me demande combien de temps je pourrais encore travailler en contact quotidien avec l'horreur. » Combien de temps j'aurai le cœur déchiré de ne pouvoir les aider tous, les sortir de cet enfer? Le pire, ce n'est pas de les écouter. Le pire, c'est de savoir que je suis impuissante. C'est ce que j'ai ressenti lors de ma première mission en 1980 dans les camps de réfugiés cambodgiens, où 500 000 d'hommes, de femmes et d'enfants vivaient dans des conditions effroyables. Au fil des années, j'ai souvent affirmé que la mission en cours serait la dernière. Ce n'est qu'en décembre 2010... quand mon corps m'a signifié qu'il en avait assez, que j'ai laissé la place aux plus jeunes, après 30 missions. Quelques affectations ont été entrecoupées de périodes de pause plus longues. Pendant ces mois, ces saisons, ces années, je voulais me sédentariser afin de construire une vie de couple stable, sans succès. Lorsque je regardais à la télé les correspondants de guerre, l'appel du terrain finissait toujours par être le plus fort. L'envie d'être au cœur de l'action, là où l'histoire se déroule, et le goût de découvrir le monde, de côtoyer des cultures différentes, de rencontrer des gens passionnants m'ont toujours poursuivi. À cela s'ajoute, évidemment, la satisfaction d'aider ceux qui souffrent. N'est-ce pas un immense privilège? C'est comme ça qu'elle voit la situation. Alors, en 1991, Elisabeth Carrier se rend en Éthiopie pour travailler au rapatriement des soldats d'une armée déchue. Pour entrer chez eux, 200 000 ex-militaires ont besoin de notre assistance. Ils sont nombreux à arriver d'aussi loin que le nord du Soudan, où ils se sont enfuis après leur défaite. Ils ont marché 900 kilomètres, sans presque rien à manger et à boire. En attendant leur rapatriement, ils végètent dans le désert soudanais depuis 4 ou 5 mois à une température de 45 degrés. Ils survivent avec un peu de farine blanche et 1 litre d'eau par jour. On nous rapporte qu'un grand nombre d'entre eux sont déjà morts de faim. Ce sont 500 loques humaines qui débarquent tous les jours des avions cargo sur la piste de l'aéroport d'Addis Abeba. La plupart ne sont jamais retournés chez eux depuis le début de la guerre civile en 1974. Tout près de la piste, nous avons aménagé un camp de transit et une tente d'hospitalisation pour les malades. Certains sont si affaiblis qu'ils n'arrivent pas à marcher les 200 mètres qui les séparent de la tente. Ils y sont accueillis et soignés par notre équipe médicale et le personnel de la Croix-Rouge éthiopienne. Malheureusement, certains n'iront pas plus loin. Ils meurent de la tuberculose ou du sida sans avoir eu le temps de revoir leur famille. Et le 22 novembre 1991, la sécurité sur les routes est devenue précaire. Nous devons, malgré tout, escorter les camions qui transportent les ex-soldats à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, 22 novembre, écrit-elle, une centaine d'hommes prennent place dans trois camions. J'en ai tellement vu mourir à l'aéroport que pour rien au monde, je ne donnerais ma place. Ils sont heureux, mais très inquiets. Ils ignorent s'ils retrouveront les leurs après toutes ces années d'absence, sans avoir échangé la moindre nouvelle. En Croatie, en 1992, la Croix-Rouge veut protéger les Serbes qui sont expulsés de Croatie. Elle écrit le 28 janvier 1992, « Dino, mon interprète suisse d'origine croate et moi, couvrons une zone où cohabitent Serbes et Croates. Avant la guerre, ces deux groupes vivaient en harmonie. Maintenant, les Croates détruisent les maisons des Serbes qui ont fui, une façon de les empêcher de revenir. Ceux qui restent vivent dans l'angoisse. Ces populations vulnérables nous préoccupent beaucoup. La majorité des prisonniers serbes ne veulent pas aller en Serbie car c'est en Croatie qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi, et ils ne veulent surtout pas abandonner leur maison. Malheureusement, ils n'ont aucun moyen de savoir si elle est encore debout ou si elle est occupée par une famille croate revenue de Serbie. » Alors, à ce moment, dans le texte, on peut lire à la page 123 qu'à un moment donné, la Croix-Rouge agissait comme intermédiaire pour l'échange de prisonniers. Et elle dit qu'ils sont 90 Serbes qui ont accepté d'être échangés contre des prisonniers croates en Serbie. Nous escortons les bus jusqu'à un no man's land entre les deux frontières. L'endroit fourmille de soldats. La route est parsemée de mines antichars sur les quelques centaines de mètres qui séparent les deux groupes. Une fois terminées les formalités avec les militaires, les mines sont déplacées sur le côté de la route et les prisonniers descendent des bus un à un. Nous demandons à chacun de décliner son identité et de nous confirmer qu'il quitte volontairement le pays. Ça me fend le cœur, car je sais qu'ils partent pour ne pas mourir. La majorité vont vers un pays qu'ils ne connaissent pas, et ils sont seuls. Je n'oublierai jamais la tristesse dans le regard des hommes. Et Elisabeth Carrier nous parle aussi de ses missions au Cambodge en 1990, un peu partout dans le monde, y compris au Rwanda, et elle termine finalement sa course en 2010, alors qu'elle revient d'une dernière mission qu'elle avait effectuée pour la Croix-Rouge en Guinée. C'est dans le Reader's Digest.
Devant l'embobineuse, coincé dans l'auto. toujours la même cassette. La la la, toujours la même cassette.
Alors, c'était Louis-Jean Cormier, toujours la même cassette. Mmh. Et après les sujets graves comme la Shoah et la guerre, je vais revenir à quelque chose de très concret, pratique, concernant nos droits. Et je vais lire un texte de Sophie Stival dans Le Bel Âge de février 2015 qui traite des prélèvements bancaires préautorisés. Créances hypothécaires, primes d'assurance, électricité, Internet, grâce au débit préautorisé, appelé DPA, on ne risque plus d'oublier une facture ou de payer en retard. Mais ce mode de paiement comporte aussi son lot de désagréments. Comment peut-on stopper ou contester nos prélèvements bancaires en cas de désaccord ? Vous surveillez toujours de près vos relevés bancaires. Bonne idée, car il arrive que des erreurs surviennent. Dans le cas d'une carte de crédit, la population est beaucoup mieux protégée. En cas de litige ou de fraude, on appelle simplement le fournisseur de sa carte et la transaction est rapidement annulée. C'est au commerçant de prouver que le service a été rendu et de se justifier. Avec les débits préautorisés, c'est plus compliqué, constate le porte-parole de l'Union des consommateurs, Philippe Viel. Les DPA permettent de payer des factures ou de transférer des fonds de façon régulière. Avec eux, on autorise notre institution financière à prélever à certains moments des sommes qu'elle pourra ensuite verser à un fournisseur particulier comme Bell, Vidéotron, Hydro-Québec. Mais avant de s'engager à régler nos comptes de cette manière, il faut s'entendre avec l'émetteur des factures en signant un formulaire d'autorisation qu'on appelle aussi « accord de DPA du payeur ». Certains demanderont un spécimen de chèque afin de vérifier nos informations bancaires. On y inscrira alors la mention « nul » à l'encre sans le signer. Que faire quand un prélèvement est incorrect ou non autorisé ? C'est l'Association canadienne des paiements qui, avec ses institutions financières membres, s'occupe du traitement des DPA. En 2002, elle a instauré la règle H1. Celle-ci établit notamment les formalités que doivent respecter le fournisseur et le payeur. Il y est également question des procédures de contestation et de remboursement pour le consommateur. Par exemple, il est interdit au fournisseur de changer la date du prélèvement préautorisé sans en avertir le client. Une telle situation vous arrive ? Vous faciliterez les choses si vous avez pris soin de conserver une copie du formulaire d'autorisation et de la confirmation écrite que le fournisseur doit vous remettre si vous avez conclu une entente par Internet ou par téléphone. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada rappelle aux consommateurs qu'ils disposent de 90 jours civils suivant la date du retrait pour signaler à sa banque un prélèvement incorrect ou non autorisé dans son compte et demander un remboursement. Mais les délais de prescription pour un consommateur qui souhaite récupérer des sommes d'argent est de 3 ans, ajoute Philippe Vielle. Arrêter un paiement. Si l'entente signée avec l'entreprise prévoit le prélèvement d'une somme fixe et que survient un changement inhabituel dans nos DPA, il est possible de faire un arrêt de paiement en appelant notre institution financière. Puisqu'on confie nos épargnes à notre banquier, ce dernier est responsable du prêt qu'on lui accorde. En cas de pépin, il devrait aussi avoir une part de responsabilité, même s'il joue le rôle d'intermédiaire dans ces transactions, affirme M. Vielle. De notre côté, on ne peut cesser, comme bon nous semble, un paiement préautorisé. Une entente a été conclue, il faut tenter de la respecter. Si on est insatisfait du service offert par le fournisseur, il vaut mieux d'abord formuler nos récriminations pour essayer de régler le différend. Si on souhaite arrêter des DPA avec un fournisseur, il faut aviser ce dernier ainsi que notre institution financière. Au cours des mois suivant cette interruption, il sera sage de surveiller ses relevés bancaires afin de s'assurer que les prélèvements ont cessé, conseille encore M. Vielle. Maintenant, à propos des frais variables abusifs. Peut-être avez-vous signé des contrats avec des services publics ou de télécommunications qui prévoient des forfaits avec un montant de base mensuel plus des frais de dépassement. Peut-être aussi que, après avoir excédé le nombre de minutes ou de mégaoctets qui vous étaient alloués, vous avez trouvé abusive la somme additionnelle qu'on vous réclamait. Beaucoup de confusion entoure ce genre d'entente. Si on a signé un accord de DPA pour des montants variables, l'entente doit indiquer cette précision et l'entreprise devra donner un préavis d'au moins 10 jours pour nous faire connaître la somme qui sera débitée. À moins qu'on ait accepté de renoncer à ce délai ou encore de le raccourcir, on peut contester le paiement et exiger un changement de tarification. Il arrive aussi qu'un retrait est effectué quelques jours plus tôt que prévu. Une telle manœuvre peut mettre certains consommateurs à découvert dans leur compte et par conséquent engendrer pour eux des frais élevés. Encore là, c'est une situation qu'ils n'ont pas à tolérer. Autre cas, vous avez sans doute remarqué qu'à l'échéance de certains contrats, un accord de débit préautorisé est renouvelé automatiquement s'il y a absence de nouveaux éléments majeurs, comme le prix, le type de service offert. Cette façon de faire est parfois utilisée dans les contrats d'assurance auto ou résidentiel ou certains contrats de télécommunication. Vous devez bien sûr être avisé par écrit de ce renouvellement et des changements afférents. Mais s'il y a de nouveaux éléments essentiels au contrat, le consommateur doit donner son consentement explicite ou refuser sans aucun frais la nouvelle entente lorsqu'elle ne lui convient pas, rappelle de nouveau M. Vielle. Pour annuler un accord maintenant. Un accord de débit préautorisé n'est pas un contrat signé pour la vie. Vous pouvez toujours l'annuler. Pour cela, vous devez en aviser l'émetteur des factures avec lequel vous avez conclu l'accord. Cet accord doit justement spécifier la procédure à suivre pour annuler l'autorisation que vous avez accordée au fournisseur. Si ce n'est pas le cas, faites connaître votre décision par écrit au fournisseur concerné et conservez une copie de votre lettre, conseille l'Association canadienne des paiements. Enfin, une dernière petite chose intéressante à retenir, en cas de fraude ou de prélèvement non autorisé successif, vous pouvez toujours fermer votre compte de banque et en ouvrir un autre, remarque l'Union des consommateurs.
Dans l'actualité, économiser des centaines de dollars cet hiver. C'est un long texte, je vous en donne quelques-unes des idées pour économiser. On dit que chauffer votre voiture l'hiver ne consomme presque pas d'essence car la chaleur provient du moteur. Méfiez-vous plutôt de la climatisation en été qui s'avère un véritable gouffre énergétique. Alors, l'hiver, c'est pas si mal. Et le chauffe-moteur, est-ce que c'est énergivore? L'utilisation d'un chauffe-moteur facilite le démarrage par temps froid et peut faire économiser de 20 à 40 $ d'essence durant l'hiver, selon la CAA. En utilisant une minuterie pour le faire fonctionner seulement 3 heures avant le démarrage, on ajoute de 10 à 25 $ d'économie d'électricité. Le démarreur à distance n'apporte quant à lui aucun avantage financier.
Alors maintenant, charité mal ordonnée en Ukraine. En temps de guerre, l'aide aux itinérants est souvent loin d'être la priorité dans un pays. Or, les Ukrainiens demeurent très sensibles à la situation des sans-abri malgré le conflit qui fait rage depuis presque un an dans l'est du pays. Même si la plupart des organismes de charité viennent principalement en aide aux soldats blessés, les responsables des refuges maintiennent des services essentiels aux plus démunis. Il faut dire que les premiers refuges ne sont apparus dans les grandes villes ukrainiennes qu'en 2006, avec l'appui d'ONG internationales et de donateurs privés.
Alors, c'était le Kiosque Magazine du lundi 16 février. C'est Franceline Nieuviard et Roger Roy qui ont animé cette émission. Nous espérons que les sujets que nous avons choisis vous ont intéressé. Un petit remerciement à Jean-Sébastien Laliberté qui est dans l'aquarium de la régie. Oui. Alors, bonjour tout le monde et
bonne semaine à chacun.
À la semaine prochaine.